Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue à la fois sur BFM Business, sur la chaîne Tech & Co, sur YouTube aussi, pour De quoi je mêle, votre rendez-vous dédié à la tech, vous le savez, en fin de semaine, avec au menu de ce De quoi je mêle tout à l'heure. On vous aidera à l'approche des fêtes de fin d'année à bien choisir votre casque audio. Vous savez qu'il existe plusieurs modèles, les arceaux, les trous wireless, etc. Il y a même aujourd'hui des casques avec de la conduction osseuse. Qu'est-ce que ça vaut? Comment choisir? Lionel Costa du Labo Fnac nous donnera quelques précieux éléments de réponse tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez bien choisir à l'approche à la fois du Black Friday et de toutes ces promos qui vont pleuvoir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous rappelle aussi que nous sommes en plein dans cette période de Labo Wix sur la chaîne Tech & Co et vous pouvez retrouver d'ores et déjà la rediffusion de notre cérémonie des Tech & Co Fnac Darty Awards. C'était il y a quelques jours pour connaître évidemment les lauréats, quels sont les meilleurs produits de l'année. C'est à découvrir sur la chaîne YouTube et sur la chaîne évidemment de Tech & Co. Merci d'être là, bienvenue, c'est parti pour De quoi je me mêle. Et on commence par le club de la presse IT. Anthony Morel est là, salut Anthony.
Bonjour. Bonjour à tous.
Alors je suis un tout petit peu plus bronzé que vous, c'est tout à fait normal.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà, il y a pas, là, la semaine dernière. Ne réglez pas votre, c'est pas du HDR ou du Dolby Vision. Enfin, on n'a pas changé de caméra que pour moi. C'est tout à fait normal.
T'as ça très bonne mine.
Oui, écoute, on essaye. Ça va, Anthony?
Mais oui, ça va. oui. L'émission nous a manqué à tous.
Eh ben voilà. On est ravis de retrouver aussi Raphaël Grabli. Salut Raphaël.
Salut François. Salut Anthony.
Voilà, Anthony BFM Business, RMC, vous le savez tous les jours. Et puis Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint de l'Univers Tech & Co. Alors dans l'actualité cette semaine, plein de choses intéressantes. Et forcément, rien ne va plus du côté des géants de la tech américaine, sauf Apple, qui arrive, mine de rien, à tenir le coup, à bien tenir le coup. Mais pour les autres, que ce soit les Google, les Microsoft, les Twitter et surtout Amazon, qui prévoit de licencier pas mal de monde, c'est un peu la pagaille, c'est winter is coming, hein, on peut dire ça comme ça, Anthony?
Ah, clairement, c'est la purge totale.
C'est la purge et c'est effrayant quand même.
Ah bah, c'est-à-dire des vagues de licenciements assez massives qui ont été annoncées. Alors on a eu Meta il y a quelques jours, donc c'était 11 000 salariés, ça représente 13% de ses effectifs dans le monde, donc c'est quand même pas rien. Twitter, on va y revenir après, mais bon, c'est oui. Vrai que là Elon Musk fait un gros ménage. Amazon, donc, qui devrait annoncer, en tout cas la presse américaine qui dit ça, 10 000 suppressions de postes, qui à l'échelle d'Amazon n'est pas énorme, c'est 1% de leurs effectifs. C'est une très grande entreprise Amazon, mais Amazon, c'est la première fois qu'ils ont un plan social de cette envergure là d'habitude, à la période des fêtes, Amazon ils embauchent en masse. Là, pour la première fois, ils suppriment des postes. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ces postes, c'est pas dans les entrepôts qu'ils les suppriment, c'est dans les branches recherche et développement, c'est des jobs technologiques. Logique, oui, en fait, corporate également. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des entreprises de croissance qui sont en panne. On a une récession mondiale, bon, il y a une situation économique qui est très particulière, évidemment. Et donc, les entreprises technologiques sont en train de se demander, est-ce qu'on a vraiment envie, là, de mettre des milliards de dollars un peu partout dans les projets de recherche et développement
qui sortiront peut-être dans 5 ans, 10 ans.
Exactement. Mais
ou qui ne marchent pas forcément super top fort.
C'est ça. Et qui ne vont pas, en tout cas, nous rapporter d'argent ou qui ne nous rapportent pas suffisamment d'argent pour l'instant. Et l'exemple le plus frappant de ça, c'est Amazon, puisque la division qui est la plus touchée par cette restructuration, c'est la branche devices, donc qui s'occupe notamment de Alexa, enfin toutes les petites enceintes connectées, qui ne répondent pas visiblement, alors c'est ce qu'on apprend aussi, hein, aux exigences et aux ambitions qu'Amazon avait donné à cette division. En gros, il voulait faire d'Alexa un truc absolument incroyable, un hub de shopping vocal où on pourrait passer ses commandes de courses et tout, sauf qu'en fait personne fait ça. On se rend compte que les petites enceintes, alors je sais pas comment vous vous en servez vous à la maison, moi je m'en sers pour non mais c'est ça, mais c'est le problème en fait, c'est que les gens ils s'en servent pour lancer une chanson à l'occasion, pour mettre le réveil et pour mettre la minuterie des pâtes, tu vois, mais pas grand chose de plus. Et en fait Amazon, qui voulait en faire un truc, qui voulait lancer aussi des fonctionnalités pour la santé, genre Alexa qui est capable de détecter ta voix, si t'es enroué, à ce moment-là on va appeler le docteur, enfin il y avait plein de trucs qui étaient dans les tuyaux. Ils sont en train de se dire, est-ce que ça vaut la peine que je paye 10 000 ingénieurs à temps plein pour bosser sur des projets complètement fous d'intelligence artificielle, si c'est pour que les mecs à la fin ils lancent le minuteur des pattes, quoi.
C'est ça.
Ça n'a pas forcément d'intérêt, donc on taille dans les effectifs.
Raphaël.
Bah, en fait, alors, je mets de côté Twitter, parce que Twitter, c'est un cas
C'est un peu particulier.
On peut en parler après. Meta et Amazon, en fait, c'est un peu la fin du fantasme, dans les deux cas. C'est un... Tout le monde est chez soi, est complètement dépendant d'eux. C'était le fantasme du Covid, c'est valable aussi pour les plateformes de SVOD à la Netflix. Tout le monde pensait, ah bah il y a le Covid, on va tous demain ne plus sortir de chez soi, donc regarder Netflix, donc mettre un casque de réalité virtuelle pour travailler, et donc tout faire à la voix parce qu'on n'est pas foutu de bouger de son canapé. Or, il se trouve...
On allait même sur Clubhouse.
Et voilà, et on allait même sur Clubhouse, je m'en souviens même plus
bon,
de ce
ça
truc.
Club quoi ?
Non, ceci dit, Clubhouse a lancé la fonction qui est absolument géniale, qui est maintenant sur Spaces, sur c'est Twitter... Vrai. Qui a été copié par Twitter, et je trouve que pour le coup, moi j'adore Spaces, et donc finalement c'est
bien.
Clubhouse n'a pas marché, mais ce qu'ils ont créé fonctionne très bien.
Ils auraient dû se vendre à Twitter quand ils ont eu l'occasion,
alors qu'ils avaient des valeurs incroyables.
Voilà, mais justement parce qu'ils étaient aussi dans ce fantasme-là, et tout le monde se rend compte que les gens, en fait, bah, bizarrement, ils ont envie de sortir de chez eux, ils ont envie de voir leurs potes, ils ont envie éventuellement d'aller au cinéma, même si on sait que c'est pas toujours terrible, enfin bon, ils ont envie de ne pas passer leur vie sur Netflix. Accessoirement, ils n'ont pas envie de tout commander sur Amazon, on commande des piles, etc., ce qui est un peu emmerdant, entre guillemets, à acheter. Mais si on a envie d'acheter de la nourriture, voilà, les artisans, c'est pas si mal non plus. Et donc finalement, on se rend compte que la vie rêvée des géants de la tech n'est pas la vie rêvée des gens.
C'est pas la réalité.
C'est
vraiment
pas la réalité, et c'est pas non plus l'avenir, puisque quand tu dis ils suppriment des postes en R&D, la R&D, c'est l'avenir. Donc c'est que finalement, ces boîtes qui engrangent déjà, qui gagnent beaucoup d'argent. Facebook et Amazon gagnent beaucoup d'argent. C'est des boîtes qui sont pas en danger.
Oui, oui, ils en gagnent beaucoup, mais moins qu'avant.
Exactement, mais simplement, elles se disent, bon, on va peut-être finalement se recentrer sur notre cœur de métier. Alors, pour Amazon, ouais. Et Facebook, eux, ils ont un autre problème, c'est que Facebook, leur cœur de métier, contrairement à Amazon, est en plus en déclin, parce qu'eux, ils ont une concurrence très forte avec TikTok, etc., et qu'en plus, ils se sont lancés dans une stratégie complètement bidon de métavers qui, en plus...
Ambitieuse.
Bidon de métavers qui ne fonctionne...
Non, mais... Ah, là, on sent quand même les tensions.
Mais... Ouais. Oser, voilà.
Franchement, dans 2 ans, si on parle encore de métavers, je viendrai faire mon mea culpa et je dirais que je me suis planté sur toute la ligne.
Il faut qu'on parie un truc, les amis, parce que voilà, c'est trop simple. Hein.
Exactement.
On parie un bon resto.
Non, mais là où je te rejoins, c'est que le timing est très mauvais pour Facebook, enfin, ça, bref. Très clairement. C'est-à-dire que quand ils avaient des milliards
à plus savoir qu'en faire,
c'était, voilà, tu pouvais en lâcher 10 par an pour le métavers, ça posait pas tellement de problèmes. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué.
Moi, quand même, quand on licencie 10 000 personnes,
bah oui, non, mais c'est ça.
Donc, en gros, moi, je trouve que la situation globale, c'est que le fantasme est terminé. Après, chaque boîte a une situation différente. Amazon, c'est juste qu'ils disent on se recentre pour le moment sur notre activité principale. Parce que, comme tu dis, évidemment, ça ne touche pas les entrepôts parce qu'on sait que ça va continuer à bien marcher.
Et ni le cloud.
Ni le cloud, évidemment, parce que c'est
les vaches à lait.
Facebook, c'est différent. Facebook, je trouve que c'est beaucoup plus inquiétant. Oui, bénéfices divisés par deux. Là, oui, alors évidemment que Facebook et Instagram, ça reste énorme. Donc, ils ne sont pas en danger de mort. Mais enfin, le problème, c'est qu'ils sont challengés. Et en plus, leur stratégie d'avenir, elle est pour le moment totalement foireuse. Peut-être que ça changera. Pour le moment, elle est totalement
foireuse. Non, mais si tu enlèves le cas du métaverse en particulier, parce qu'effectivement, on peut en discuter, mais c'est quand même un peu inquiétant le fait que, ou dommage en tout cas, le fait de tailler dans des budgets qui sont censés imaginer l'avenir. Parce que c'est pas seulement le métaverse, c'est aussi les recherches sur l'intelligence artificielle, sur la santé du futur, en fait, sur les voitures autonomes, tous ces trucs-là, qui sont quand même des choses qui potentiellement peuvent nous changer la vie. Et là, je pense que tous ces grands groupes technologiques, comme tu disais, c'est la fin du miracle, sont en train de se dire il n'y a pas d'argent magique, là, il faut qu'on se recentre sur des trucs qui nous rapportent de l'argent là, maintenant, tout de suite. Alors que c'est aussi important de se réinventer et de penser à 5 ans, 10 ans, 15 ans.
Oui, mais en période de crise, on coupe le gras.
D'ailleurs, pour parler
de Facebook, encore une fois, le gras chez toutes les entreprises, c'est quoi? C'est les campagnes publicitaires qui se réduisent. Donc forcément, des boîtes de pub comme Facebook, c'est assez compliqué.
Ça, c'est sûr.
N'oublions pas que ces boîtes sont très agiles. Elles coupent dans les effectifs aujourd'hui, mais peut-être qu'elles peuvent réembaucher. Prenons le cas de Facebook. Meta, ils ont embauché, je crois, plusieurs dizaines de milliers de personnes juste après le Covid, en fait, parce qu'ils avaient tellement besoin. En fait, c'est des boîtes qui respirent, en quelque sorte.
Tu sais,
en fait, là, il y a un repli.
Pays. Ça dépend des pays. En France, c'est plus compliqué. En France, ils s'en foutent.
Mais aux États-Unis, c'est ce qu'a fait Elon Musk, finalement. Il vire et puis il rembauche derrière un petit peu.
Le côté positif de la chose, c'est peut-être pour la France et les entreprises technologiques françaises. C'est un gars du secteur qui me disait ça. J'avais pas pensé à ce point-là. Qui, en fait, ont beaucoup de mal à concurrencer les Facebook, les Amazon, etc. en termes d'embauche, parce qu'évidemment, c'est pas du tout les mêmes sommes qu'ils peuvent proposer à de jeunes ingénieurs, par exemple. Et là, en fait, ils vont pouvoir garder les jeunes ingénieurs sur des projets français d'intelligence artificielle, des trucs sur lesquels on n'a pas les moyens de garder d'habitude.
Oui, il y a des talents qui vont être disponibles. En fait et qui peuvent être embauchés et venir en Europe, pourquoi pas.
Ouais, c'est ça.
Et après, juste pour comparer avec Apple, pourquoi Apple ne connaît pas ce problème ? Parce que Apple n'a pas du tout le même modèle économique. Et en fait, Apple, évidemment que c'est un GAFAM, mais Apple a un modèle de boîte industrielle. Et finalement, est assez peu touché par ça. Alors évidemment, ils peuvent vendre moins d'iPhone, mais on ne peut pas avoir des variations comme ça, parce que le taux de renouvellement d'iPhone, en plus, ils en vendent partout dans le monde, donc il y a des marchés qui s'équilibrent. Donc ils ont un modèle plus stable, on va dire. En plus, maintenant, ils se diversifient un peu, enfin même pas mal dans les services. Mais finalement, le modèle fondamental d'Apple, c'est fabriquer des iPhones et puis les revendre très cher, avec énormément de marge et en très grande quantité. C'est-à-dire qu'Apple, c'est la seule boîte, à mon avis, de l'histoire qui fait de la valeur et du volume. En général, il faut choisir, soit on fait de la marge, soit on fait du volume. Apple arrive à faire les deux.
Oui, à faire les deux, c'est sûr.
Et donc ça, en période de crise, ça permet d'avoir quand même les reins solides. Et d'ailleurs, bon,
et puis il y a une gestion de bon père de famille quand même. Hein.
C'est ça.
C'est-à-dire que Tim Cook derrière fait pas n'importe quoi. C'est pas les premiers à innover, hein, Apple. Hein, c'est vrai.
On prend une technologie qui est mature. On l'assume.
C'est normal. Voilà. Ils ont deux références.
Ah oui, non mais.
C'est dingue. Je regardais ça parce que comme j'ai eu quelques jours de congé, j'ai beaucoup lu et je m'intéressais notamment au Wi-Fi. Qualcomm a annoncé, je sais pas si vous avez vu le Wi-Fi 7 qui va être un truc, mais qui va être monstrueux avec des débits incroyable, des portées, enfin voilà. Et sur le dernier iPhone qui coûte plus de 1000 euros, on n'a même pas la puce Wi-Fi 6E, en fait, qui est une itération qui existe depuis déjà 2 ans.
Mais après, la question d'Apple, c'est quoi ? C'est est-ce que
Simplement, c'était un exemple pour dire, ils mettent pas forcément les dernières technologies dans leurs produits.
Ouais, c'est ça. Ils attendent que ce soit vraiment mature.
Utile.
Ouais, enfin,
en tout cas, que les gens.
Et puis une puce Wi-Fi 6E.
Qui a un marché potentiel.
Et puis ça coûte plus cher le Wi-Fi 6E que le Wi-Fi 6. Donc, ils vont grappiller quelques dollars supplémentaires.
Je sais pas si c'est l'enjeu chez Apple.
Je sais pas.
Il faut la garder, la marge à 40.
Sur un iPhone, c'est énorme en fait.
Ça représente.
Enfin, d'ailleurs, on a eu le prix, c'est intéressant, on a eu le prix de production de l'iPhone 14, c'est 484 $, si je ne dis pas de bêtises, ou 480, pardon, pour l'iPhone 14, pas le Pro, hein, versus 484 justement l'année dernière, donc 4 $ de moins. Ce qui montre d'ailleurs que la hausse de...
C'est une super performance, parce que finalement, avec le coût des semi-conducteurs qui a explosé, etc., Apple a réussi...
Et oui, mais attends, il y a un truc hyper important, c'est la puce A15.
Ah oui, voilà, qui coûte moins cher aujourd'hui.
L'iPhone 14 Pro, j'ai plus le chiffre en tête, mais a augmenté par rapport à l'iPhone 13 Pro. Mais ce qui les sauve sur l'iPhone 14, c'est évidemment d'avoir gardé la puce A15. S'ils étaient passés à la puce A16, comme ce qu'ils faisaient tous les ans, c'est en passant à la puce suivante, il aurait coûté plus cher. Mais le fait qu'il soit moins cher, ça confirme une nouvelle fois que notre hausse de prix en Europe, elle n'est pas liée à la hausse des composants.
Non,
elle est liée évidemment à l'euro-dollar. Même si c'est vrai que l'iPhone 14 Pro, lui, pour le coup, coûte plus cher que l'iPhone 13 Pro. Mais alors, chez Apple, la marge à 40%, il faut la garder.
On va revenir sur Apple parce qu'on a 2-3 trucs à vous raconter là-dessus. Mais pour terminer sur le grand chamboulement des géants de la tech, un mot sur Twitter aussi quand même.
Ah oui, voilà.
Bon, alors voilà, ça se poursuit. Elon Musk qui, visiblement, met un peu d'eau dans son vin, j'ai l'impression, là, parce que...
Oui, alors c'est notamment sur l'histoire des comptes certifiés. Là,
oui, des comptes certifiés.
Y a une sorte d'alerte. Mais en fait, il l'a dit, dès le début, il a dit, de toute façon, on va... tester des trucs.
On va faire plein de conneries.
Ouais, exactement.
Il a tenu sa promesse.
Il a tous les jours.
C'est vrai.
Il n'y a aucun problème. On teste des trucs, on casse des trucs, ça marche, c'est bien, ça marche pas, on revient en arrière. En fait, c'est assez étonnant parce qu'il traite ce réseau social qui a des centaines de millions d'utilisateurs
comme un laboratoire, comme
un produit en phase bêta, tu sais, que tu es en train de bêta tester auprès de quelques centaines d'utilisateurs. Non, c'est Twitter quand même. Mais voilà, on teste des trucs. Donc il y a eu cette question de certification où on pouvait en gros se faire passer pour n'importe qui, n'importe quoi, avec la petite pastille bleue. À condition de payer $8 par mois, aucune vérification d'identité, qui a montré quand même ses limites assez rapidement.
Vous avez vu cette histoire d'insuline, là ?
Ouais, incroyable.
Incroyable.
C'est intéressant, parce qu'il y a eu des usurpations d'identité, de personnalité, qui sont assez drôles du point de vue de l'utilisateur quand tu les lis. Enfin bon, moins pour ceux qui se font usurper l'identité, évidemment. Mais alors, les entreprises, effectivement, tu as eu des cas, alors là encore, assez légers. Par exemple, un faux compte Pepsi, donc avec la petite pastille bleue, qui dit le coca c'est meilleur. Tu vois, bon, ça c'est rigolo, pourquoi pas.
Oui.
Et puis tu as ce groupe pharmaceutique, donc Eli Lilly.
Ce qui n'est pas faux en plus.
Mais, enfin, alors
c'est
après,
une question, de goût.
Usurpation d'identité, tu as un gars qui se fait passer pour ce groupe, qui met le même logo, qui demande la petite coche bleue en payant $8 par mois et qui poste l'insuline est désormais gratuite. Sachant que c'est cette entreprise, entre autres, qui fabrique l'insuline. Forcément, qu'est-ce qui se passe ? Le cours de l'entreprise perd $20 milliards en quelques minutes. Enfin, il y a des vraies conséquences, si tu veux.
Bien
l'entreprise
sûr.
En panique doit s'excuser sur son vrai compte Twitter auprès de ses actionnaires en disant non, c'est n'importe quoi, etc. Et là, tu te dis, tu as une conséquence qui est très concrète. Et le truc le plus fou, c'est qu'Elon Musk, donc, qui voit ça, au lieu de s'excuser ou de dire que ça se reproduira pas ou même de rien dire du tout, non, il va lancer le débat sur le prix de l'insuline. Il va continuer à discuter avec Bernie Sanders, notamment le candidat d'extrême gauche américaine. Et donc il lance. Donc en gros, c'est bon, on s'en fout quoi. Voilà, ouais, il y a voilà. Une fake news totale. Un mec qui s'est fait passer pour une entreprise qui a trompé complètement les
actionnaires. À cause de moi. Parce que j'ai mis en place des règles de certification qui sont débiles.
Non, mais t'imagines là, c'est vraiment. T'as des questions au-delà du truc marrant. C'est des délits d'initié quoi. Tu te fais passer pour une entreprise. Tu dis ça. Enfin, tu shortes l'entreprise. Ouais. Tu récoltes des millions
de dollars. $8.
Ouais, ça te coûte $8. Ça c'est coûte $8. Un bon retour sur investissement.
Non, parce que son grand argument, Elon Musk, c'était de dire mais non, les gens vont pas faire ça parce que s'ils usurpent une identité, on gardera leurs $8 et on va supprimer leur compte.
Ouais, ah, bah, tu parles.
Ouais, c'est super. Bien sûr.
T'as vu le cas Nintendo qui était rigolo, vous avez vu aussi, non? Le Nintendo of America. Non. Alors pareil, un mec
qui
s'est
passé. Oui, avec Mario qui fait un doigt d'honneur.
Exactement. Il poste Mario, une image de Mario très bien réalisée, mais il fait un doigt d'honneur. Donc c'était pas le vrai compte Nintendo of America, évidemment. Je pense que ça les a fait rire chez Nintendo.
Non, parce qu'ils aiment pas trop ça.
Ils aiment pas trop leur calme.
Non.
C'est-à-dire que quand Elon Musk a dit bon, le badge de certification qui était un badge d'authentification contre l'usurpation d'identité, il a dit bon, tout le monde pourra l'acheter. Il s'est dit, ça, c'est devenu un accessoire de mode, ouais. Les gens en ont envie. Bon.
Et puis ça va me rapporter un maximum de fric cette histoire.
Oui, parce qu'il y a tous les gens qui veulent avoir leur badge parce qu'ils sont frères d'avoir leur badge, même si ça n'a aucun sens, ça n'a aucune signification. Ils disent on veut un badge bleu.
Ça n'a aucun sens que les NFT.
Non, mais, ça n'a aucun... mais tu sais quoi, c'est exactement pareil. C'est exactement comme.
Comment on pas avec ça.
Mais non,
mais j'étais sûr qu'on peut y aller réagir.
Tu sais quoi, c'est exactement pareil que d'acheter un NFT dont tu n'as pas la propriété de l'image, simplement. C'est moi qui l'ai, c'est moi qui ai payé pour ça, et tu l'affiches en photo. C'est exactement ça. Ça me sert à rien, non, mais j'ai payé pour et je suis fier.
Tu peux pas le revendre en plus, le badge Twitter.
Et oui, t'as rien.
Tu peux pas le revendre, c'est vrai.
C'est vrai, le NFT, tout. Tu peux trouver un pigeon derrière. Le badge Twitter, tu peux pas. C'est vrai.
De plus en plus difficile de trouver les pigeons pour acheter des NFT.
Mais... Oh là là. Faut qu'on se refasse une émission.
Ouais.
Non, mais si tu veux, il a dit on va faire ça. Tout le monde sur Twitter a dit attendez, ça va être le bordel. C'est-à-dire qu'il va y avoir des usurpations d'identité en masse, ça va être une catastrophe. Il a dit non, je suis plus intelligent que les autres. On l'a appris ensuite, il a eu des alertes, un rapport de 7 pages de ses équipes chez Twitter en lui disant « ça va être le bordel ». Non, je suis plus intelligent que les autres, je vais le faire quand même. Il le fait, c'est le bordel, et évidemment, il l'a supprimé. Donc en fait, il dirige Twitter tout seul, et en fait, il disait « comme je suis plus intelligent que tout le monde, je vais non seulement gagner $8 fois le nombre d'utilisateurs qui vont l'acheter, alors je crois que c'est 100 000 personnes, 150 000, je crois que c'est même 50 000 personnes.
Ouais, c'est peanuts.
C'est absolument peanuts. Mais en plus, comme ça, je gagnerai à la fois là-dessus et puis sur la pub. Résultat, il a arrêté, donc il ne gagne plus rien avec ça. Résultat, les annonceurs ont vu que Twitter était pour le moment dirigé par un enfant de 8 ans avec le cerveau d'Einstein. Et ils se sont dit, on se barre. Donc résultat, là, il va perdre des fortunes. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il va le relancer le 29 novembre prochain. Et donc, je me demande voilà, ce qui va changer, parce qu'il ne va pas relancer la même chose.
Enfin, au moins une vérification d'identité, d'ailleurs... c'est pas possible sinon. Ça, c'est sûr.
Il faudrait être fou, je crois que c'est Einstein qui disait ça. D'ailleurs, il faudrait être fou pour penser que les mêmes causes produiraient des conséquences différentes.
C'est la définition de la folie, selon Einstein.
C'est la définition de la folie. Donc, j'ose imaginer qu'il va mettre en place d'autres choses. Sachant qu'en plus, ce badge bleu n'a plus aucun sens, puisque de toute façon, ils ont fait un badge gris officiel, qui en fait est le vrai badge.
Oui, qui est le badge de certification, qui était bleu avant, qui devient gris en quelque sorte.
Le badge bleu,
c'est un bonbon qui est joli sur ton profil.
$8. Voilà.
Mais c'est vrai que là, il est confronté à un principe de réalité économique. Comme tu disais, les annonceurs commencent à se barrer. Et ce n'est pas seulement quelques annonceurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les grandes agences médias, donc type Omnicom, Groupe Même, etc., qui ont dans leur portefeuille des Apple, Nestlé, L'Oréal, enfin des très gros annonceurs, leur disent surtout arrêtez vos campagnes de pub sur Twitter. Parce que, vous avez de l'usurpation d'identité. Deux, les contenus ne sont plus ou sont très peu modérés. Donc, vous allez avoir des pubs qui se retrouvent au milieu de tout et n'importe quoi. Donc, vos budgets pubs, vous les mettez ailleurs. Or là, Twitter, tout Elon Musk qu'il est, il ne peut pas vivre aujourd'hui sans la pub.
Il a perdu sur tous les
tableaux. C'est Zuckerberg qui doit être content, là. Enfin, Zuckerberg et TikTok,
ouais,
parce que peut-être qu'ils vont se retrouver... Non, mais ils vont se retrouver peut-être avec des budgets pubs qui n'étaient pas prévus.
Alors,
qui allaient sur Twitter et qui, maintenant, se retrouvent sur Insta.
Peut-être Facebook. Alors, TikTok, en plus, puisqu'on parle du bordel tech, ils sont scrutés de près par le FBI qui a dit que TikTok pourrait constituer une menace...
De sécurité.
Par rapport aux données qui seraient stockées en Chine.
C'est assez incroyable de voir à quel point toutes les boîtes, toutes les stars de la tech...
C'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi.
Mais c'est intéressant, c'est un peu triste parce que je pense surtout moi aux gens qui se font licencier.
En plus, quand ils se font virer, c'est à l'américaine. Quoi. Voilà. Si tu reçois un mail, t'as vu chez Twitter, c'était genre, je crois que c'était si tu reçois un mail sur ta boîte pro t'es gardé.
Si c'est ta boîte
sur ta boîte perso, c'est que t'es viré.
Bah, puisque t'as déjà plus accès
voilà,
à ta boîte
pro. Plus accès à ta boîte pro.
Donc, et la Musk a envoyé un nouveau mail à ceux qui restaient, donc il a viré la moitié des gens. Et hier ou avant-hier, enfin mercredi, je crois, il a envoyé un message en disant, en gros, il va falloir bosser comme des fous. En mode extrême.
Extremely hardcore.
Extremely hardcore, c'est extrême de l'extrême.
Long ouais, hours, ça. High intensity.
Exactement. Et en gros, il fallait cliquer sur un lien. Et si tu cliques sur ce lien, c'est que tu es d'accord. Si tu ne cliques pas avant, c'était jeudi en fin de journée, tu es viré.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Ça, c'est... Avec 3 mois de salaire.
Donc, tu es prêt à faire des journées de 24 heures ou alors...
Ouais, et cliquez sur ce lien, ouais. Si vous êtes d'accord ou pas.
C'est faire ça, attention, mais ça se trouve, il y a ceux qui ont pensé que c'était du phishing.
Ouais, ouais, ils ont cliqué, ils se retrouvent en extrême
hardcore. Alors qu'après tout, ils appliquent les bons réflexes.
Juste un mot sur Twitter, il y a aussi un autre truc, c'est tout... Je ne sais pas si vous avez vu, c'est tous les... En fait, toutes les boîtes qui travaillent pour Twitter aussi, c'est le grand ménage.
Ouais, les sous-traitants.
Les sous-traitants, en fait.
Notamment qui sont chargés de la modération.
C'est ça. Parce qu'en fait, voilà, il n'y avait pas que des employés dans le dur chez Twitter, hein. Ils faisaient appel effectivement
à des boîtes françaises, il y a Accenture aussi Accenture qui est dans la modération
et là encore, hein, c'est vraiment des coupes monstrueuses.
Là pour le coup ça fait partie du plan, enfin de toute façon, il n'a pas menti sur la marchandise.
Il a dit, je vais arriver, je vais faire
le ménage, il y aura moins de modération, ça c'est son côté libertarien, je pense que lui il se réjouit de tout ce chaos et de tout ce bordel et donc oui effectivement c'est la grande purge. Après, je veux dire, juste pour nuancer un tout petit peu tout ça, parce que là, on a l'impression que c'est vraiment un gamin qui joue avec son jouet, et il y a un petit peu ce côté-là, et moi, je pense qu'il aime le chaos, Elon Musk.
Il est comme ça dans la défiance, bien sûr.
Mais il y a aussi, je pense qu'il a un plan derrière tout ça, enfin, tu vois, il n'est pas débile. Je disais un commentaire qui m'a fait un peu redescendre sur terre aussi d'un chef d'entreprise qui disait, attendez, le nombre de gens qui n'ont jamais dirigé une entreprise, qui sont en train d'essayer d'apprendre à un gars qui a dirigé Tesla et SpaceX comment on gère une entreprise technologique, c'est assez fou. Donc ouais, je pense qu'il faut aussi se calmer un petit peu.
Après, c'est un autre domaine. Quand tu construis des bagnoles ou des fusées, c'est autre chose qu'un réseau social qui a d'autres buts.
Disons qu'il a déjà mené des hommes, quoi, c'est ce que je veux dire.
Oui, bien sûr.
Voilà, avec un objectif clair.
Et au passage, je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'Accenture était français, ce n'est pas du tout français.
C'est américain.
Non, c'est américain, Accenture. Mais ils sont très présents en France.
Ils sont très présents en France.
Un mot sur Apple. Donc, on a évoqué le fait qu'Apple arrive à tenir, évidemment, à flot ses équipes, etc. Même s'ils ont dit qu'ils embaucheraient peut-être un petit peu moins. Mais bon, enfin, en tout cas, tout va bien. Des nouveautés concernant Apple, avec l'iPhone 14, qui, vous le savez, on en avait beaucoup parlé lors de sa sortie, a une particularité, c'est que en fait, il a une fonction d'appel d'urgence qui fonctionne par satellite, qui a été lancée ces derniers jours aux États-Unis et je ne sais plus dans quel pays, je crois, qu'aux US, je crois bien.
Pour le moment...
Là, récemment au Canada, du coup.
Canada. Voilà, US et Canada, ouais, voilà. Exactement. Amérique donc du Nord, le continent, l'Amérique du Nord. On en sait un petit peu plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette fonctionnalité qui est somme toute assez intéressante, qui, rappelons-le, c'est que vous êtes par exemple en pleine campagne, en pleine montagne, vous n'avez pas de réseau, il vous arrive une tuile, et bien malgré tout, vous allez pouvoir envoyer un message de détresse aux secours, qui vous géolocaliseront et viendront vous chercher.
C'est un truc assez malin en fait, parce que c'est une appli qui va... préenregistrer un certain nombre de paramètres et donc tu as juste à répondre à quelques questions du genre qu'est-ce qui vous arrive, c'est un truc, une sorte de QCM, et ensuite l'algo qu'a créé Apple va compresser le fichier et va l'envoyer vers un satellite qui peut être très très loin et qui va avoir du mal à capter, et donc même ce tout petit bout de message là, ça va prendre plusieurs dizaines de secondes à arriver, mais ça va arriver quand même, et donc on peut venir
avec la géolocalisation aussi, donc ce qui est quand même un truc pas mal, hein. Garmin, alors ce qui est rigolo, parce que Garmin faisait ça depuis des années avec leur montre, etc. Mais c'était un service qui était payant, c'était $25 par mois. Donc là, pour l'instant, ce service est gratuit chez Apple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, ça arrive en France en décembre, et on en sait un peu plus sur les investissements d'Apple sur ce sujet. Et c'est Globalstar, qui est une boîte de satellites américaines, qui s'est retrouvée avec un petit jackpot, parce qu'en fait, on se rend compte que cette fonctionnalité a coûté plus de $450 millions à Apple.
C'est là où on se dit que Apple est une boîte qui peut se permettre ça et que chez n'importe quel autre fabricant, ce serait payant. Or, Apple a les reins suffisamment solides et une envergure financière suffisamment forte pour intégrer ce coût de 450 millions de dollars, ce qui est absolument énorme. Alors après, il faut voir aussi sur quoi ça porte, sur le, et surtout sur le combien d'années, parce que c'est un deal, je suppose que c'est un deal pluriannuel, je ne sais pas s'il y a l'info. Mais,
en fait, là, c'est gratuit, en tout cas, pendant deux ans
c'est
pour
ça.
Les utilisateurs.
Donc, ça veut dire que peut-être après, ce sera payant.
Après, voilà. Ça sera peut-être payant, mais pour l'instant, pendant deux ans, c'est gratuit.
Et puis, c'est surtout, ça va avec surtout ce qui est proposé pour l'Apple Watch. À mon avis, d'ailleurs, le deal initial, c'était principalement justement pour l'Apple Watch aussi, qui doit aller concurrencer Garmin à ce niveau-là. Et donc, je pense que c'est un deal global. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Elon Musk qui a dit qu'il aimerait bien rentrer dans la partie. Parce que là, pour le coup, ça pourrait être intéressant pour lui. On pense évidemment à Starlink.
Mais il n'avait pas déjà annoncé ça? Il n'a pas dit que Starlink allait proposer ce genre de fonctionnalité? Ça me dit quelque chose.
Alors, si, ils ont fait un deal avec, si je ne dis pas de bêtises, avec T-Mobile.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Ils ont fait un deal avec T-Mobile, qui, donc, du coup, c'est une autre façon de le faire. Soit on le fait par l'appareil, soit on le fait par l'opérateur.
Voilà, c'est ça.
L'avantage de l'appareil, c'est que ça marche partout dans le monde, mais l'opérateur, c'est que ça marche sur tous les appareils. Donc, c'est intéressant aussi, quand même. Et puis, Starlink a une flotte de satellites qui est quand même assez robuste. Et c'est vrai que c'est un acteur, on se dit qu'ils aimeraient bien aller derrière chercher le contrat avec Apple. Mais c'est vrai que c'est deux approches différentes.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, c'est rendu possible aussi. Alors là, on a quand même pas mal critiqué Elon Musk. Mais là, on peut quand même lui rendre hommage. C'est-à-dire d'avoir vraiment fait chuter le coût finalement de l'envoi de satellites et le coût matériel de ces services. Et donc finalement, de proposer ça par l'opérateur à des millions et des millions de gens. Alors évidemment... ça servira, on l'espère, ça servira le moins possible. Mais enfin, mine de rien, des zones, c'est pas forcément on est totalement au milieu du désert, mais des zones où on capte pas suffisamment pour envoyer un SMS.
Des zones blanches, il y en a. Hein.
Il y en a pas mal.
Ouais, moins fort en France qu'aux États-Unis. Hein.
Ouais, mais alors, par exemple,
tu sais, un accident de voiture sur une route de campagne.
C'est rare que t'aies quand même zéro signal quand même.
Bien sûr, mais voilà.
Non, mais je pense que c'est pas non plus pour toutes les personnes qui font des randonnées, etc.
Et oui, t'as les randonnées.
Tu sais, parfois t'es dans le creux d'une vague, enfin dans le creux d'une espèce de
dans une cuvette,
dans une cuvette, etc. T'as pas de réseau, ça arrive.
C'est vrai.
Bah là, voilà, ça. Même, alors peut-être qu'ils sauveront 10 personnes par an, ça sera toujours 10 personnes de
on
sauver,
est d'accord.
Et c'est plutôt intéressant. Ce qui est intéressant aussi dans un article que j'ai lu sur 01net et aussi sur iGen qui est où on apprend plein de choses, c'est que en fait Apple et Global Star ont travaillé vraiment de concert, et les ingénieurs d'Apple sont allés en fait dans les locaux de Global Star pour rajouter leurs produits, en fait leur du hardware pour que ça fonctionne en fait avec ce service-là, et autant vous dire que pour Global Star, c'est un vrai jackpot. C'est assez intéressant, et donc ça arrive en France, cette fonctionnalité. Ça, c'est la bonne nouvelle.
Oui,
ça,
on s'y attendait pas pour le coup.
Oui,
on pensait pas du tout que ça arriverait en France aussi.
Alors, France, Royaume-Uni, Allemagne, je crois, Irlande.
Ouais.
Dans l'actu, Anthony, tu as vu aussi un truc. Alors, bon, voilà, on parle beaucoup d'écran, mais on aime bien ça. Un écran assez étonnant qui est à la fois extensible, qu'on peut étirer comme un élastique.
Ouais, c'est assez bizarre, effectivement. Alors, c'est LG Display. Hein, donc la division écran de LG qui travaille sur beaucoup beaucoup d'innovations sur tout ce qui est écran, à la fois sur les télés, les smartphones, etc., et qui a présenté sous forme de photos pour l'instant, donc on n'a pas beaucoup beaucoup de choses à se mettre sous la dent.
C'est dommage qu'on n'ait pas de vidéo, parce que moi comme toi je cherchais, je regardais un petit peu ce que ça donnait. Une photo, bon voilà, c'est vrai que...
Absolument, mais enfin s'ils font l'annonce en général, enfin LG Display, je leur fais plutôt confiance en général, ils sont quand même vraiment assez performants, et donc en gros là la promesse, et on voit effectivement sur sa photo un écran qu'on peut non seulement plier, ça on a déjà les smartphones à écran pliable, enrouler, ça aussi on avait déjà vu des démos notamment avec des petits moteurs qui permettent d'enrouler ou de dérouler un smartphone comme un store, mais là c'est carrément un papier, tu vois, lapsus révélateur, non, un écran qu'on peut plier, froisser dans tous les sens comme une boule de papier, et qu'on peut tirer comme un élastique, et qui va s'étirer de 20% tout en gardant toutes ses propriétés d'écran, c'est-à-dire ça continue à s'afficher exactement comme un écran. Donc c'est assez dingue, quoi. Tu tires sur un élastique et donc c'est rendu possible, vraie prouesse technologique, hein, parce que tu imagines les composants à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de faire de l'électronique flexible. Les circuits intégrés sous cet écran sont des petits ressorts en fait qui se détendent comme ça quand tu tires dessus. C'est incroyable ouais, quand tu y penses. Ouais. Alors la question derrière, c'est à quoi est-ce que ça va servir ? Est-ce que ça va être pour des nouvelles générations de smartphones ? Pourquoi pas ? LG donne des cas d'usage assez intéressants où on pourrait intégrer ces écrans à des vêtements, par exemple, ou à des accessoires, à des surfaces non planes, type dans un avion ou sur une voiture, un tableau de bord de voiture, ce genre de choses. Je me souviens que Louis Vuitton, il y a quelques années, mais c'était avec Royole, hein, qui est lui aussi groupe chinois très en pointe.
On avait vu ça à Vivatech et au CES. Ouais.
Tu te souviens de ça ? Et alors, ils avaient présenté
les sacs
Louis Vuitton, qui étaient, bon, c'était pas forcément, enfin, bon, chacun ses goûts, hein, mais c'est des sacs avec l'écran intégré où tu pouvais mettre ton fil Instagram. Donc vraiment, c'est le comble du narcissisme numérique. C'est, tu te balades dans la rue et t'as ton fil Instagram qui défile sur le sac à main. Génial.
Quelle horreur.
Bon, enfin, bon, bref. Mais c'est plus la performance technologique qui est intéressante, si tu veux, quoi. Mais voilà, on verra ce qu'ils en font. Je trouve que c'est en tout cas une piste de recherche assez vertigineuse. Voilà.
On va voir ce qui va se passer lors de ce CES 2023 qui approche à grands pas. Hein. C'est dans un mois et demi. On y sera. Enfin, évidemment, j'aurai le plaisir de faire le déplacement avec une partie de la rédaction pour vous présenter des Tech & Co, etc. Je suis curieux de voir si on va avoir de belles innovations de la part des géants d'électronique.
Sur les écrans, c'est toujours marrant. Tu sais, au CES, bah, tu connais ça par cœur, mais tu sais, ils apportent des trucs qu'ils mettent en réserve.
Oui.
Genre, LG va regarder le stand de Samsung. Et si Samsung a sorti un truc complètement fou, il
hop
sort le truc qu'ils avaient en réserve.
Il y a une surenchère.
C'est génial.
Pour
en fait,
garder le lead, évidemment. Et puis ce CES 2023 risque d'être un peu le CES du retour à la normale de ce grand salon. Enfin, en tout cas, on suivra ça de près. On y sera. Dans l'actu, tiens, si on parlait d'IA et de FIFA, parce que ça aussi, alors la Coupe du Monde arrive à grands pas. Et ce jeu de foot arrive à prédire des résultats incroyables.
Je connais déjà le vainqueur en fait. Je peux vous donner le vainqueur de la Coupe du Monde. Voilà,
le vainqueur de la Coupe du Monde, mon Dieu.
Si on réécoute l'émission dans un mois et que c'est pas ça, je vais passer vraiment pour un imbécile.
Non, c'est pas grave. Non, mais attends,
c'est l'IA, ça va. C'est pas
c'est
toi.
L'IA, c'est pas moi. Donc c'est l'Argentine, hein, désolé pour, voilà, pour tout
l'Argentine.
Qui Argentine qui gagnerait en finale contre le Brésil 1-0. La France finirait 3e, sortie en demi-finale donc par l'Argentine. Et donc tout ça vient d'une simulation de FIFA. En fait, à chaque Coupe du Monde, ils font tourner le jeu. Et comme FIFA a une modélisation extrêmement fine des performances des joueurs, des équipes, qui est remise à jour quasiment en temps réel, eh bien, ils obtiennent des résultats qui sont d'une justesse absolument surprenante. Alors, je vous donne quand même le parcours des Bleus sur cette compétition.
Oui.
On verra si ça se réalise ou pas. Donc, la France, je vous ai dit, termine 3e contre l'Argentine. Elle fait 8e de finale, 2-1 contre la Pologne. On gagne, quart 1-0 contre les États-Unis. Bon, et puis on perd 1-0 contre l'Argentine. Et c'est Lionel Messi qui finirait soulier d'or, donc le meilleur buteur avec 8 buts.
Ce serait, ça mérite. Voilà.
Ça serait chouette.
Moi j'ai une petite question, oui parce que ça ils l'ont fait tourner avant toutes les blessures.
Alors fait ils l'ont, je crois qu'ils ont publié leurs résultats la semaine dernière, donc ça doit être
ouais.
J'ai pas suivi parce que moi j'y connais, je précise, j'y connais vraiment pas grand chose
en
foot.
Alors, en gros il y a plus personne, si je dois résumer la situation, il y a plus personne, tout le monde est blessé.
Tout le monde est blessé. Ah mais ça va peut-être fausser les résultats, t'as raison.
Oui, c'est
parce que en fait ce qui est très intéressant,
il y a pas plus personne, mais enfin
il y a moins de monde.
En milieu de terrain, c'est un peu compliqué.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que par le passé, les résultats obtenus par cette IA ou ce simulateur sont incroyablement précis. Et je vais vous donner, alors sur la dernière Coupe du Monde, ils avaient donné la France vainqueur, bon, ce qui est une chose, mais surtout le parcours de la France. Je vous donne les prédictions donc, qui avaient été réalisées avant la compétition. L'IA avait prédit que la France éliminerait l'Argentine en 8e, l'Uruguay 2-0 en quart, sortirait la Belgique en demi-finale, ce qu'il fallait quand même deviner, c'était quand même pas gagné d'avance.
Ouais, c'était vraiment.
Et remporterait la compétition.
C'est pas mal.
Et pour la petite
face
anecdote,
à la Croatie ou pas ?
Non, ils n'avaient pas le bon finaliste en face. Comme quoi, ça fonctionne pas à tous les coups. Pour la petite anecdote,
mais c'est quand même impressionnant. La Belgique, c'est chaud.
Ils avaient prévu que la Belgique vaincrait le Brésil. Hein, je crois que c'était ça. Donc ce qui n'était pas du tout gagné. Voilà. Et pour la petite histoire, on avait organisé en interne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous y aviez participé. Un concours de pronostics. Il y avait 4000 personnes dans le groupe Altice, et donc tout le monde pariait sur tous les matchs. Voilà. Et moi, qui n'y connais rien, j'avais suivi tous les pronostics de l'IA de FIFA. J'ai fini 2e sur 4000.
Waouh.
Voilà.
T'as gagné quoi ?
J'ai gagné un smartphone.
Oh. Sachant que en étant chez Altice, c'est un peu normal.
C'est ça.
T'es au courant qu'il y en a un nouveau là, mon petit gazon qui s'est lancé là.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah bah écoute, je vais aller. Mais je crois que je vais faire la même chose et puis on va voir.
On va jouer la même chose.
Tous les collaborateurs d'Altice qui écoutent de quoi je me mêle vont avoir les mêmes résultats. Il va avoir 800 ex-aequo.
4000 ex-aequo.
Ça veut dire qu'il y a quand même une personne qui a fait mieux que l'IA et qui a été très très performante. Donc voilà.
On sait qui c'est ou pas ?
Je sais.
C'est pas quelqu'un d'RMC Sport,
ça aurait été top. Je crois pas. Bon, enfin, mais non, enfin bon, tout ça pour dire, évidemment, c'est pas de la magie. Évidemment, il y a des incertitudes dans le sport, comme tu disais, les blessures. Il y a un coup de génie qui peut arriver. Il y a, je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a une incertitude très clairement. Mais quand même, on a des systèmes maintenant de modélisation. Le sport, c'est pas que de la data, c'est pas que de l'analyse, mais ça en fait de plus en plus partie et ça en est une illustration parfaite.
Impressionnant, ça.
Hein, ouais, c'est impressionnant, bah, parce que, enfin, c'est vrai que FIFA, ils ont des scores de, comment dire, personnels. Après, ce qui est difficile à prévoir dans le foot et dans les sports d'équipe, d'ailleurs, c'est ce qui est beau, c'est la cohésion globale.
Oui, oui, oui.
Tu peux avoir des personnages, des joueurs dans FIFA qui sont tous à 80 et l'autre qui, les autres qui ont un des scores plus de 90. Puis au final, dans la réalité, l'équipe va être soudée. Tu sais pas ce qui va se passer. Ils vont avoir une espèce de magie comme ça. Qui
et heureusement, en fait.
Et heureusement. Non, mais je dis ça parce que effectivement, on pourrait être tenté dans ce cas-là aussi de parier. Bon, faut faire attention.
Ne pariez pas
attention.
Toutes vos économies sur les scores FIFA. Non, mais t'as
je dis ça parce que.
Ne vous abusez pas à ça.
Mon petit gazon, c'est quelque chose. Ne pariez pas. Ou alors, si vous avez prévu de parier, c'est un loisir comme un autre, évidemment. Oui. Mais voilà, faut pas non plus croire.
Ne pariez pas plus parce que vous faites confiance à l'IA de FIFA. Voilà.
Et juste pour finir sur le côté impressionnant de la chose, donc je vous ai dit, ils avaient trouvé les scores de la France la fois d'avant. La Coupe du Monde précédente, ils avaient prédit que l'Allemagne gagnerait et celle d'avant, l'Espagne. Donc ils ont tout bon depuis 4 éditions.
Pétard, on va voir si l'Argentine sera donc le grand vainqueur de ce mondial.
Oh, ça me ferait plaisir.
Bah oui,
je suis pour les Bleus quand même.
Ouais, je suis pour les Bleus, mais pas très
optimiste.
Moyen.
Messieurs, merci. C'était top de vous retrouver. Merci Raphaël, merci Anthony. Et ce de quoi je me mêle se poursuit dans un instant. Casque audio, j'imagine que tous les deux vous êtes des utilisateurs de ce type d'objets, arceaux, trous wireless, etc. Comment choisir ?
Condition on retrouve, osseuse.
Voilà, Lionel Costa tout de suite du Labo Fnac qui nous donne ses conseils. Vous restez avec nous, bien sûr.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de De quoi je me mêle. Vous savez qu'avec le Labo Fnac, on aime bien de temps en temps vous donner des conseils pour bien choisir vos produits. Smartphone, télé, etc. Là, on va s'intéresser au casque. Accessoire qui va cartonner pour ces fêtes de fin d'année. Voilà, c'est un cadeau sympa. J'allais dire pas cher, pas forcément. Hein. On a des produits qui ont des tarifs stratosphériques, mais en tout cas, on peut se faire plaisir et on va faire le point justement. Comment choisir son casque ? Parce qu'il y a plusieurs systèmes, les casques à arceaux, les écouteurs, mais aussi les casques même à conduction osseuse. On en parle avec Lionel Costa qui est avec nous.
Bonjour François.
Salut Lionel, responsable du développement du Labo Fnac d'Arty. Alors effectivement, le Labo Fnac, dans Labo Fnac et à Labo, vous testez ce type de produit aussi, tout ce qui est casque, tout ce qui est audio d'une manière générale. Hein.
Oui, et les casques principalement, c'est quelque chose, c'est une famille qu'on connaît depuis très longtemps.
Ouais.
C'est vraiment la hi-fi et c'est un produit sur lequel on a beaucoup beaucoup à dire. Parce qu'en termes de qualité audio, l'audio, le son, ça ne se voit pas, ça se ressent. Et c'est très dur pour quelqu'un de choisir tel ou tel casque seulement sur des aspects type les watts RMS, des fréquences en Hertz, mais qu'est-ce que c'est, etc. Le rôle du Labo Fnac, c'est d'arriver à vulgariser tout ça et de dire à un moment donné, en termes de qualité audio, voilà les performances réelles des produits.
Comment vous testez tous ces produits ?
Les casques, qu'ils soient sans fil ou filaire, on les passe tous dans une chambre anéchoïque, notre chambre anéchoïque, qui est isolée pour rappel, hein, qui isole complètement le son extérieur et qui va nous permettre de mesurer le son sans aucune pollution extérieure. On va pouvoir mettre donc ce casque sur un mannequin qui a des petits trous, des petits micros au niveau des oreilles et on va analyser le son qui sort de ces casques-là. Ce son-là, on ne met pas n'importe quoi, on ne met pas de la musique, on ne met pas des gens en train de parler, on met des bruits qui ne sont pas forcément très agréables pour l'humain. C'est ce qu'on appelle des bruits roses, donc je ne vais pas le faire là au micro, mais c'est vraiment un brouhaha.
Oui, pas possible, hein. Ça fait pshhh, un truc comme ça.
En fait, c'est un spectre audio qui...
Il y a toutes les fréquences dans ce bruit rose, c'est ça ?
C'est le même qu'on utilise d'ailleurs pour le test des stations audio ou des barres de son. C'est un spectre audio qui va des graves, des médiums aux aigus.
C'est un peu comme une mire d'une télé finalement, hein, si on fait l'analogie.
C'est parfaitement ça.
C'est ça.
Une mire audio référence qui fait référence dans le monde de la métrologie. Et grâce à ce spectre-là, qui est parfait en termes de linéarité. Il n'est pas suraccentué dans les basses, dans les aigus. Il est parfaitement flat. On va pouvoir savoir si le casque retranscrit ce son-là de manière linéaire ou s'il va vouloir...
Donc vous avez quoi ? Vous avez des micros qui sont dans les casques après, qui restituent ? Comment vous mesurez en fait ?
Alors donc on a un mannequin qu'on appelle Arthur au labo de la FNAC, qui est placé dans cette chambre anéchoïque, qui a des micros à la place des oreilles.
Ah oui, d'accord.
Quand on place le casque, évidemment le son émis va être écouté par ses oreilles et par ses micros. Et donc, on sait exactement canal gauche, canal droit. Canal gauche, canal droit, quel est le son qui va être émis. Et c'est des micros de précision, évidemment. Ce n'est pas des micros classiques, c'est des micros qui coûtent extrêmement cher, qui sont calibrés pour justement être parfaits en termes de mesure.
Vous mesurez aussi la stéréo ou pas ?
Oui, bien sûr.
Et oui, puisqu'il y a deux micros de chaque côté.
Oui, bien sûr. Enfin, oui, je dis bien sûr, ce n'est pas forcément évident, mais on vérifie si, lorsque j'ai un signal A sur le canal gauche et que j'envoie un signal B sur le canal droit, s'il n'y a pas de pollution ou d'interférence entre les oreilles. Alors, théoriquement, enfin, pas théoriquement, mais dans la mesure, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui très peu d'écart sur cette mesure-là. Mmh. Sur la partie différence entre gauche-droite, c'est assez bien maîtrisé.
Donc, casque à arceaux, écouteur, alors ça c'est la folie des trous wireless, ouais. Et puis après il y a un segment qui existe mais qui n'est pas vraiment la majorité, c'est le casque à conduction osseuse. Ouais. Ça marche encore les casques à arceaux ? Il y a encore un gros marché ?
Alors, je ne sais pas au niveau commerce, mais par contre je sais qu'en termes de population et de références vendues et testées au labo, oui, les casques à arceaux, ça marche, et en plus... C'est plutôt à destination des gens qui, justement, veulent avoir un certain confort. Et d'ailleurs, beaucoup de gens supportent très mal d'avoir quelque chose accroché à leurs oreilles.
C'est vrai.
Alors, sur les casques à arceaux, on a plusieurs genres. On a les casques qui sont plutôt de salon, très épais, très larges.
Oui, imposants.
Imposants. Et d'ailleurs, c'était un petit peu la polémique avec l'AirPod Pro Max, en fait, où c'est un casque qui est annoncé comme nomade, mais qui est gros comme un casque de salon. Mmh. Et donc, on ne sait pas trop comment le placer, celui-là. Nous, on teste tous les casques de la même manière. On considère que c'est un appareil qu'on met sur les oreilles et on veut écouter le meilleur son possible. Qu'il soit à destination d'être écouté en intérieur ou en extérieur, en train de courir ou dans le métro ou dans sa voiture, pas forcément dans la voiture, mais ou dans un avion, on teste de toute façon, de la même manière, tous ces produits-là.
D'accord.
Les casques à arceaux ont cette particularité-là d'être, pourtant, on peut dire le casque à arceaux, c'est ancien, mais on a des produits qui sont très très haut de gamme, qui restent en arceaux.
Est-ce que c'est les arceaux qui ont la meilleure restitution du son ? Pour les mélomanes, finalement, ceux qui veulent le top du top, vont plutôt se tourner vers les arceaux ou plutôt vers du true wireless ?
Non, clairement, les casques à arceaux. C'est l'arceau. En plus, ça fait plutôt assez consensus dans le monde de la musique ou le monde de studio. Ouais. Les casques arceaux, c'est eux qui permettent...
Les musiciens, les choses comme ça, ont toujours ces casques-là.
C'est ça. Pour rappel, le son...
Même avec des fils.
Oui, bien sûr. Oui, en plus, c'est plus pratique certaines fois, plutôt que de chercher une batterie, enfin de pouvoir se recharger électriquement. Pour rappel, le son, ce sont des membranes qui vibrent, qui font déplacer de l'air. Si jamais on a des... Alors, les trous wireless fonctionnent très bien. Mais plus on a d'espace pour placer cette membrane-là et faire déplacer de l'air, et on aura une restitution de son beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Donc, le casque à arceaux reste encore, sur la partie audiophile et la partie haut de gamme, le format, le design qui est préféré.
C'est ça. Après, bon, donc, les trous wireless, ça, c'est vraiment le format en vogue en ce moment, avec toutes les marques qui s'y mettent. AirPods, Apple, qui a complètement bouleversé ce marché avec ses produits.
Ouais. Et étonnamment, parce qu'en fait, c'est pas au départ, Apple n'est pas un produit qui fait de l'audio, mais ils ont su s'entourer des bonnes personnes, ils ont fait le bon design, et ça a très bien marché. On en parlera après sur la sélection des produits, mais les AirPods Pro ont vraiment étonné, sachant qu'en plus, on avait à l'époque, sur la partie, quand les AirPods Pro sont sortis, on n'avait pas tant de trous wireless avec réduction de bruit sur le marché. Il y en avait quelques-uns, mais c'était pas énorme. Et ce qu'on a pu voir, nous, au labo FNAC, c'est qu'on a 4 typologies de tests possibles sur un seul et même casque. On a les casques filaires avec réduction de bruit, mais on a aussi les casques Bluetooth et les casques Bluetooth avec réduction de bruit. Donc potentiellement un casque qui est capable de faire ces quatre-là, on va le tester quatre fois, comme et si oui. c'était quatre casques différents. Mmh. Et on a des vraies différences. On Bien a sûr. Des vraies différences parce que lorsqu'on active la réduction de bruit, par exemple, sur les casques, ça peut générer un bruit de fond, mmh. un son. Oui.
Qui va abîmer la fréquence, Exactement. Enfin la restitution des fréquences, par
Exactement.
Exemple.
Exactement, donc on va avoir un son
qui est différent. Et puis le Bluetooth aussi détruit parfois la restitution du son.
Oui, mais alors... j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais le Bluetooth, puisque c'est du numérique, on passe donc de l'audio numérique d'une source, smartphone, télé ou n'importe quoi, jusqu'à l'oreillette Bluetooth numérique également, il n'y a aucune dégradation analogique. Or, quand on branche une prise casque, une prise jack, il y a une
oui,
destruction analogique.
Oui, oui, puisqu'il y a un fil avec...
Exactement, donc on peut avoir une sensibilité électrique qui n'est pas bonne, en tout cas un problème, une perturbation électrique qui va dégrader un peu le son. Donc non, le Bluetooth ne détruit pas systématiquement la qualité du son. Et surtout, les codecs Bluetooth sont de meilleure qualité.
La conduction osseuse, alors ça c'est un segment vraiment particulier,
ouais.
Ça marche ça
il y a... Oui. Enfin, ça marche. On a à la FNAC, FNAC et Darty, on a une quarantaine de références vendues de conduction osseuse, mais grosso modo de 2-3 constructeurs différents.
C'est pour le sport ?
C'est même pour la visio.
Pour la visio ?
Pour la visio, certaines personnes le mettent comme ça, quand elles sont dans un open space, elles veulent quand même entendre ce qui est autour, en fait, ça permet d'entendre. Alors, je rappelle peut-être conduction osseuse.
Oui, rapidement.
Très rapidement, la conduction osseuse, c'est une technologie qui fait vibrer les os de la mâchoire et de la boîte crânienne, qui ensuite vont taper sur les tympans à l'intérieur de l'oreille interne. Ce qui fait que même quelqu'un qui a les tympans crevés ou des problèmes d'audition, peut écouter
oui,
grâce
parce qu'il va ressentir, il ressentira le son. En fait.
Exactement.
C'est ça qui est formidable.
Et dans l'avenir, on espère pouvoir tester les casques à conduction osseuse. On a pu tester une machine de test, un appareil de test qui nous a été prêté pour voir qu'il y avait des différences. Mais là, c'est une question d'arbitrage sur ce qu'on doit budgéter, etc. Mais j'espère que dans les 2-3 ans, on pourra
y aller.
Annoncer ça. Exactement.
Oui, parce qu'Arthur, là, il ne peut pas faire ça. Il n'est
pas fait pour.
Il n'est pas fait pour la conduction osseuse, le pauvre. Un mot sur quand même, sur les produits que vous avez sélectionnés à la FNAC, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Si on s'adresse aux mélomanes, si on veut le top du top, on s'en fout, on a le budget, on veut le meilleur casque aujourd'hui que vous ayez pu tester. De quoi s'agit-il ?
Celui qui est en vente actuellement et qui est le meilleur selon nous aujourd'hui en termes de qualité d'écoute, c'est le Focal Clear MG. C'est un petit bijou qui coûte quand même 1499 €. C'est pas pour tout le monde, ou en tout cas... Nous, on souhaiterait que tout le monde puisse l'acheter pour se rendre compte de la qualité audio, mais c'est un casque qui n'a par exemple pas de réduction de bruit dessus. Il a une réduction de bruit passive, oui. C'est-à-dire que c'est membranes en tissu qui permettent d'empêcher le bruit extérieur.
Qui isole quand même malgré tout.
Qui isole, exactement, mais qui n'est pas fait pour ça. C'est plutôt pour être dans une chambre d'écoute ou dans son salon au calme, etc.
On ne peut pas prendre le métro avec ce truc-là.
On peut, mais bon, ça va gâcher le plaisir.
Ça va gâcher le plaisir, bien sûr. C'est Bluetooth, ce type
non,
de produit
il est filaire,
ou pas ?
Il est
filaire. D'accord.
Celui-là, c'est vraiment du filaire pur.
Et là, on se retrouve avec le top du top.
Aujourd'hui, ce qu'on a testé, oui, complètement.
Etc.
Là, on a quelque chose qui est parfait. Surtout très rapidement, dans nos tests, en fait, évidemment, on veut de la fidélité. Le mot Hi-Fi, pour rappel, c'est haute fidélité. Donc, quand on envoie un certain niveau, on veut restituer ce niveau-là. Mais là, aujourd'hui, on agrémente un peu ce test-là et on utilise trois casques de studio pour voir, par rapport au profil psychoacoustique, si ça colle plus ou moins sur les suraccentuations dans les basses ou dans les médiums ou dans les aigus, si ça colle par rapport à des casques qui font consensus sur le monde du studio. Mais celui-là, c'est largement au-dessus des autres.
Après, Lionel, c'est un produit qui impose aussi toute une chaîne audio exceptionnelle. Brancher ça sur un smartphone, pourquoi pas ? Mais idéalement, ça serait d'avoir une chaîne avec du high-res, il faut derrière aussi du matériel, quoi.
Oui, c'est vrai. Après, moi, je ne suis pas trop fervent de se dire c'est soit tout ou rien.
Non, bien sûr.
Même avec un smartphone, pas d'entrée de gamme, mais moyenne gamme, qui a une prise casque qui n'est pas complètement défectueuse, si on a les bonnes sources audio, tu as raison, si on met du 4 bits...
Du audio, MP3 à 128 kilobits,
Oui, là, on va... le casque va permettre de voir les défauts. Ouais.
C'est ça. Voilà pour le casque Arso, donc le meilleur casque, le Focal Clear MG. Casque Arso, Quelle est la sélection du labo Fnac?
Le Philips Fidelio X3 pour la partie filaire, qui n'est pas Bluetooth, qui est très bon, qui est à 399 €. Donc Philips Fidelio X3. Philips a relancé sa gamme Fidelio qui était vraiment fait à l'origine pour vraiment de la fidélité, et ils ont réussi sur ce produit-là, un très très bon produit. Sur la catégorie casque à arceaux, Bluetooth et filaire, donc il fait les deux, on a le Sony WH-1000XM5. C'est le dernier qui est sorti de chez eux dans cette gamme à 399 €. Ils ont les mêmes prix. Voilà, deux produits excellents, sachant est-ce qu'on veut du Bluetooth ou pas. Là, ouais, c'est vraiment un choix là-dessus.
Sony qui est toujours dans le top des casques audio depuis des années.
Ouais, ouais. Ils ont un savoir-faire, ils l'utilisent complètement et ils s'améliorent vraiment d'année en année.
Pour les casques arceaux, maintenant les écouteurs intra ou semi-intra, là vous avez une sélection de trois produits.
Ouais, hein, Lionel. J'ai un top 3 qui je pense va intéresser beaucoup de monde. On a le Bose Quiet Comfort Earbuds 2 qui est à 299 €, donc en dessous des 300 €.
La dernière itération des trous wireless de Bose. Hein.
Exactement, qui ont fait une belle campagne de communication, mais qui avait une certaine légitimité sur la réduction de bruit active, qui est vraiment très très bonne. Nous, on a fait des mesures, on est vraiment dans le top des produits en réduction de bruit active. On a aussi le Sennheiser Momentum 3. Sennheiser, pareil, c'est une marque qui sait le faire. Mais oui, complètement. Enfin, on aime beaucoup cette marque, on les connaît assez bien, qui lui est à 249 €. Et on a dans le top 3, on a l'Apple AirPod Pro 2, voilà, dont on parlait, à 299 €, qui reste, malgré que ce soit une marque de smartphone, de micro-informatique, etc., reste dans le top 3 de tous les casques semi-intra ou intra testés au labo de la Fnac.
C'est incroyable quand même, parce que, comme tu le disais, cette boîte n'a jamais fait d'audio auparavant. Alors oui, il y avait les enceintes, les HomePod, etc. Mais ils sont partis de zéro. Ils ont dû se payer les meilleurs ingénieurs, prendre le temps pour développer ce produit. Et d'un coup, paf, ils se retrouvent avec un produit iconique en plus, parce que c'est vrai que ça devient un accessoire de mode, les AirPods. Et en plus, il est bon. C'est ça qui est fou quand même. Hein.
Le iconique, tu le dis, parce que c'est vrai que qui aurait, mis à part les oreillettes Bluetooth à l'ancienne des années 90, qui aurait pensé que ces petits trucs blancs, etc., seraient aussi présents dans nos vies? Il suffit de se balader dans les rues, ou dans le métro, ou dans le bus. On voit, aujourd'hui, ça n'arrive jamais de ne pas en voir au moins un dans les oreilles de quelqu'un. Donc voilà, ces trois produits-là que j'ai indiqués sont des produits qui sont très bons, et pour la qualité acoustique, mais aussi par la réduction de bruit, qui est de plus en plus intelligente, qui est de plus en plus agile, et qui s'adapte de mieux en mieux à l'environnement. Là où avant, c'était nécessaire d'avoir une réduction de bruit par rapport au bruit extérieur, là aujourd'hui, ils ont tous des fonctions de awareness, c'est-à-dire d'être vigilant par rapport à son monde extérieur. Donc on peut écouter du son de manière qualitative, mais également avoir le son de notre environnement, si jamais quelqu'un nous parle à un moment donné.
Et le fameux mode de transparence aussi, qui est développé notamment chez Apple.
Mais les autres l'ont aussi.
Bien sûr. Un mot sur l'autonomie de ce type de produit. Ouais. Est-ce que l'autonomie est un problème sur, par exemple, les trous wireless, parce que c'est des tout petits trucs, finalement. Il y a de l'autonomie là-dessus ?
Il y a de l'autonomie. Alors, on peut avoir du 4-5 heures sur les meilleurs en autonomie pure, avec les semi-intra. Il y a une chose qui est arrivée avec ces semi-intra, avec les trous wireless, c'est des boîtiers de recharge. Chose qui n'existait pas du tout avec les casques Bluetooth anciennement. Il n'y a plus de charge, on le branche, on le reprend quand c'est chargé. Là, aujourd'hui, on a des boîtiers de recharge qui sont fournis avec ces appareils-là. Et quand on va avoir une charge complète d'oreillettes à 5-6 heures, ou peut-être en dessous pour certaines, il suffira de le mettre dans le boîtier et au bout de 30 minutes, on a à nouveau 5-6 heures de recharge complète. Et là, dans notre protocole de test, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer et évaluer, parce que c'est une addition de plein de choses, et qu'est-ce qu'on fait avec le boîtier? Est-ce qu'on le met de côté? C'est assez compliqué de notre côté, mais en tout cas, c'est un vrai argument pour pouvoir dire, tel produit, je le garde, je garde le boîtier avec moi par rapport à un autre où je n'ai pas besoin du boîtier pour le recharger. Sauf qu'on sait que n'importe qui a des trous wireless garde le boîtier, ne serait-ce que pour les ranger et éviter de les abîmer dans les poches avec les clés ou n'importe quoi.
Eh bien voilà, je pense que vous avez quelques petits conseils pour bien choisir votre casque, alors qu'il soit arceau, que ce soit un trou wireless ou même à la conduction osseuse. On n'a pas parlé de modèle particulier tiens, pour la conduction osseuse, mais finalement, comme il y a des form factors étonnants, hein, il y a même des lunettes aujourd'hui. Il y a Bose qui a sorti ça, il y a même Meta qui a sorti avec Ray-Ban une paire de lunettes avec la conduction osseuse, c'est assez étonnant. Donc,
je pense que c'est une technologie qui a de l'avenir, peut-être pas forcément dans des produits intrinsèques qui ne sont que là que pour ça, mais comme tu le dis, en intégrant ça à d'autres
bien
produits.
Bien sûr, on peut imaginer les lunettes de réalité augmentée dans quelques années seront à conduction osseuse, sans doute. Merci beaucoup Lionel pour toutes ces précisions.
Merci à toi.
Lionel Costa, donc responsable du développement du labo Fnac Darty, pour terminer ce De quoi je me mêle sur l'audio. J'espère que voilà, tous ces conseils vous auront servi. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, De quoi je me mêle, vous avez la version vidéo qui vous attend sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co sur les box opérateurs, et puis l'audio aussi à peu près partout. Merci de nous suivre et à la semaine prochaine.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.